Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Il avait décidé de demander à changer de service pour se consacrer davantage à son fils. Maintenant qu'il était de nouveau tout seul à l'élever, mais il ne l'avait toujours pas fait. Et cette nouvelle affaire allait encore compliquer les choses, il le sentait. C'était le genre qui ne vous laisse pas en paix, le genre sur lequel tout enquêteur rêve de tomber au cours de sa carrière, mais qui se transforme ensuite en un monstre vorace, dévorant votre temps libre, vos vacances, votre vie personnelle, s'incrustant dans votre existence comme une tumeur. Du moins pour une certaine catégorie de flics à laquelle il appartenait. Il ne pouvait plus se le permettre.
C'est agréable de lire, mais c'est encore mieux parfois quand c'est l'auteur himself qui le fait, Bernard Minier. Mais il faut aussi avoir une pensée pour ceux qui ne peuvent pas ou ne peuvent plus lire. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des Échos. Il y a un an, j'avais eu le plaisir de participer au premier podcaston. Pendant 7 jours, plus de 400 animateurs et animatrices de podcasts se mobilisent pour mettre en valeur le monde associatif. J'avais mis en avant l'association L'Équipage Solidaire et son opération Deliverade en faveur des étudiants financièrement en difficulté. Le podcaston, c'est aussi cela, vous sensibiliser à des causes et vous donner envie aussi de les aider avec des dons.
Moi, je vous donne 200 francs.
Ça fait combien en euros ? Ah oui, 30 euros, un bon début. Cette année, j'ai été sensibilisé à la question du handicap et notamment des personnes qui ont perdu la vue ou qui souffrent de déficience visuelle.
Bonjour, je suis Bernard Minier, écrivain, auteur de romans policiers, et en cette journée mondiale du braille, je viens vous entretenir d'une cause qui me tient à cœur et d'une association que je parraine, le CTEB, le Centre de Transcription et d'Édition en Braille.
Bonjour Bernard Minier.
Bonjour.
Auteur à succès, publié par XO Éditions, Glacé, Lucia, Le Cercle, La Vallée, et votre dernier thriller, Un œil dans la nuit, les aventures de Martin Servaz, commandant de police, vous êtes, on l'a entendu, le parrain du Centre de Transcription et d'Édition en Braille, le CTEB. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous impliquer dans cette association ?
Ce sont les gens de l'association, justement, puisque c'est une association qui est basée à Toulouse, qui a ses locaux à Toulouse, ses machines aussi, et ce sont eux qui sont venus à ma rencontre à l'occasion d'un festival de romans policiers. Et ça m'a paru avoir du sens parce que, évidemment, moi, j'écris des romans. Eux, ils les transcrivent en braille pour les aveugles et les malvoyants. Et en plus, ils sont basés à Toulouse. Alors, mon flic est toulousain. Mes histoires se passent dans le sud-ouest en général, pas toutes, mais la plupart. Donc, tout ça, ça avait une certaine cohérence. Et puis je me voyais mal dire non, en plus.
Actuellement, deux de vos livres, Un œil dans la nuit et Lucia, sont accessibles en braille dans la librairie du CTEB. Qu'est-ce que ça vous fait ?
C'est extraordinaire. C'est l'accès pour tous à la lecture et que ces jeunes gens, au moins jeunes, malvoyants, aveugles, puissent accéder à mes textes. Parce que le braille, c'est le texte intégral avec le point, les virgules, les italiques, tout y est, les majuscules. Donc, c'est vraiment de la lecture. Et qu'ils puissent accéder à mes textes, eux aussi, ça me paraît la moindre des choses, en vérité.
Ouais, vous êtes écrivain, il y a la volonté, l'envie de raconter des histoires, même si parfois elles font peur, de les transmettre. Ne pas pouvoir lire, c'est quelque chose que vous auriez du mal à supporter ?
Ça serait terrible, oui. Parce qu'en plus, moi, mon écriture passe beaucoup par le regard. Donc, c'est quelque chose que j'essaie de communiquer, de partager. Et le verbe « regarder », le mot « regard », d'ailleurs, mon dernier titre s'appelle « Un œil dans la nuit », ce sont des mots qu'on retrouve souvent dans mes textes parce que vraiment c'est assez cinématographique, assez visuel. Mais moi, il faut que je transcrive déjà tout ça en mots et en choisissant des détails pertinents. Et ensuite, ces mêmes mots vont être de nouveau transcrits en braille pour arriver jusqu'à ces personnes. Donc finalement, c'est une forme de regard, le mien, que je leur transmets.
Qu'est-ce qui vous fascine justement dans le regard ?
Ah ben je pense que moi, en tout cas, en ce qui me concerne, c'est le premier organe. Je suis en quelque sorte un voyant et un voyeur, alors pas au sens déviant du terme, mais au sens que j'embrasse la vie à travers le regard, d'abord à travers les autres sens aussi, mais c'est le premier. Et j'avoue que j'ai du mal à imaginer ce que c'est que de voir s'en priver.
Pareil que vous êtes myope ?
Ça oui, ça c'est vrai, je suis très très myope même. Heureusement aujourd'hui, la technique permet des lentilles souples, même pour les très très myopes. J'ai moins 8 et moins 4, donc c'est quand même, sans mes lentilles ou sans mes lunettes, je ne verrais pas grand-chose, de fait.
Vous avez essayé de sensibiliser vos amis auteurs sur cette question ?
Oui, d'ailleurs, je fais partie d'un groupe qui s'appelle la Ligue de l'Imaginaire, et on se réunit de temps en temps, j'ai prévu de leur en parler. De voir ce qu'on peut faire en tant que groupe d'auteurs pour appuyer ces initiatives, pour soutenir cette association. Alors, quand je dis qu'ils réclament le prix unique du livre, avec aide de l'État, bien entendu, c'est pourquoi ? Parce qu'en fait, leur modèle économique est en danger. Harry Potter, c'est, dans le commerce, c'est 10 euros, en gros, en volume. Le coût de fabrication pour le CTEB, c'est 750 euros. Le coût d'achat pour un malvoyant ou un non-voyant, c'est 55 euros. Résultat, le malvoyant paie 45 euros de plus que le voyant. Et le CTEB, chaque fois qu'il vend un livre, il perd de l'argent. Donc c'est un modèle qui n'est pas tenable sans aide de la part des pouvoirs publics. Et puis en plus, c'est une inégalité absolument scandaleuse entre voyants et non-voyants. L'accès à la lecture, ça doit être l'accès à la lecture pour tous. Il n'y a pas d'égalité des chances sans égalité d'accès à la lecture. Et en ce moment, aujourd'hui en France, ce n'est pas du tout le cas.
La Ligue de l'Imaginaire, bientôt à la rescousse du CTEB, une association que vous pouvez aussi soutenir à l'occasion de ce podcaston. Bernard Minier aurait pu en parler des heures, mais je n'ai pas voulu abuser de son temps. J'ai donc appelé la directrice du centre de transcription en braille, Adeline Coursan.
Ce que l'on fait, essentiellement la transcription en braille, mais ça concerne différentes choses. Ça concerne la librairie, les bouquins, mais également des magazines, des journaux institutionnels comme des journaux de la commune, du département, des régions. Nous faisons également, pour quasiment tous les établissements bancaires, des relevés de comptes mensuels en braille, donc pour les clients aveugles de ces banques. Nous envoyons des relevés en braille. Et puis, nous avons également ce qu'on appelle les travaux particuliers ou travaux à la demande. Ça va être un peu du tout venant. Ça peut venir aussi bien du privé que des collectivités. Par exemple, des menus de restaurant, des chartes de patients hospitalisés, des adaptations pour des musées, pour des offices de tourisme. Ça peut être aussi des notices d'utilisation de matériel, mais aussi des faire-part de naissance, de mariage. Voilà. Tout ce qui peut s'adapter en braille, nous le faisons.
Il y a en France plus d'1,5 million de personnes souffrant de troubles visuels sévères et toutes les 15 heures naît une personne aveugle ou malvoyante. Et selon l'OMS, un doublement du nombre de déficients visuels serait à prévoir d'ici 2050. Alors vous êtes une association loi 1901 créée en 1989 par Monique Truquet. Votre objectif, développer l'accès à la lecture, à l'information et à la culture des déficients visuels. Vous avez un catalogue de livres en braille et vous en éditez régulièrement. Vous avez 10 000 bénéficiaires braillistes, comme vous les appelez. Le braille, c'est important de le préciser, c'est pas une langue.
Alors le braille, c'est un système d'écriture sous forme de code, voilà, qui a été inventé par Louis Braille, donc en 1809, si je ne m'abuse. À chaque lettre de l'alphabet va correspondre un caractère braille qui se joue sur une combinaison de 6 points. Voilà.
La CTEB existe depuis 32 ans. L'association est reconnue d'intérêt général par l'État. À l'heure du numérique, de l'audio, avec le développement des livres audio, pourquoi est-ce que c'est si important de proposer des livres en braille ?
Eh bien, c'est une très bonne question. Effectivement, je pense que tous les formats de lecture sont importants et ont diverses utilisations. Le braille papier, c'est-à-dire les livres en braille papier, permettent beaucoup plus facilement, tout simplement, d'apprendre à écrire le français, mais aussi d'autres langues, d'apprendre à mémoriser, d'apprendre à lire, bien sûr, parce que l'audio ne le permet pas. Je donne un exemple tout bête. Voilà, si on a un mot en lecture audio qu'on entend, le mot « bungalow », on n'entend pas qu'il y a un W à la fin. Donc, il n'y a que l'écriture et le papier qui peut permettre d'avoir l'orthographe, etc. Donc, en fait, c'est capital pour, toute la vie d'une personne aveugle parce que ça va lui permettre d'apprendre à écrire, d'apprendre à lire, de pouvoir s'insérer plus facilement au niveau scolaire. Et puis, de là découle toute sa vie professionnelle et ainsi de suite. Voilà.
C'est important pour la stimulation du cerveau ?
Oui, aussi, parce que ça fait travailler la mémoire, donc la mémoire de l'orthographe. Ça permet aussi, contrairement au braille numérique, de pouvoir se repérer dans un livre au niveau de la page, du chapitre, etc. Par rapport à l'audio, il faut voir aussi qu'à l'audio, en fait, c'est une personne donc, qui va raconter un livre, par exemple, et cette personne, elle va parler avec son filtre à elle ou sa manière de compréhension du texte de l'auteur. Quand on lit et qu'on est dans le silence, d'une part, il n'y a pas cette nuisance sonore. Je vais aussi vous donner un exemple, c'est qu'une personne aveugle est venue de Paris une fois à Toulouse nous acheter un livre en braille, parce que pendant la période de Covid, les livres en prêt n'étaient plus autorisés pour des raisons de contamination. Donc, elle est venue ici et je lui dis « Mais pourquoi en attendant que la période Covid ne soit pas passée, vous n'avez pas fait de la lecture audio ?» Et elle me dit « Madame, je travaille toute la journée dans le bruit, je suis standardiste et le soir, je n'ai pas envie de me mettre du bruit dans les oreilles. » Voilà. L'audio aussi, donc, ça rend plus une histoire qui est vue par celui qui la lit. Et quand on est plutôt face à la lecture papier, on est en général dans le silence et on peut s'imaginer tout un tas de choses. Il y a l'imaginaire qui travaille beaucoup par rapport aux mots et par rapport au sens de l'auteur.
Alors, je crois que vous avez à peu près 1900 références au total. Vous éditez environ 150 livres par an, y compris des ouvrages illustrés pour les enfants, les contes Disney, d'après ce que j'ai lu. Comment est-ce que vous sélectionnez les livres à transcrire ?
Alors, on a un comité de lecture, en interne, qui est composé d'à peu près 30 personnes, non-voyantes, voyantes, etc. Ce sont en général des personnes qui s'intéressent beaucoup à l'actualité littéraire. Et puis, ils nous soumettent des propositions, donc de livres à transcrire. Et environ tous les 3 mois, on fait une sélection d'une vingtaine à une trentaine de livres en se disant, ceux-là, il faut les transcrire. Parce que, évidemment, qu'on aimerait transcrire tous les livres qui sont à disposition aujourd'hui. Il y a à peu près 107 000 nouveaux livres qui sortent chaque année. Mais le grand problème, c'est qu'on manque de moyens, tout simplement, pour pouvoir en faire plus. Alors, vous l'avez dit, oui, chaque année, en ce moment, on réalise à peu près 200 nouveautés de livres qui sont choisis par le comité de lecture. Je dirais les critères aussi de choix, ça va être l'actualité, bien sûr, littéraire, les prix en premier, aussi satisfaire un petit peu tous les lecteurs dans tous les genres et pour tous les âges. Et puis, comme le livre en braille représente un coût de production très, très élevé, pour nous, c'est important de savoir si le livre va être vendu. Donc, on fait un petit peu le pari en sélectionnant un livre que celui-ci soit acheté en 10 exemplaires, par exemple.
Ça coûte plus cher de transcrire un livre en braille. Combien ça coûte à peu près ?
Environ 700 euros pour transcrire un livre.
Pourquoi ce prix ? C'est un problème de fabrication ? C'est compliqué de fabriquer un livre en braille ?
C'est compliqué, c'est minutieux, mais surtout, ça demande 3 semaines de travail. Donc, 3 semaines de travail, si on calcule ça sur un salaire de SMIC, ça revient à peu près à ça. Et puis, après, il y a le coût des fournitures, qui n'est aussi pas donné, puisque le papier est en constante augmentation. Ça participe également au prix.
Et comment est-ce que vous faites, justement ? Quel est le processus pour passer d'un livre normal à un livre en braille ?
Alors, on a parlé du comité de lecture, donc voilà, ils ont choisi une liste de livres à transcrire. Ensuite, nous, on va demander les fichiers des auteurs auprès de la Bibliothèque nationale de France via une plateforme qui s'appelle Platon. Donc, on va sur cette plateforme, on va dire, on voudrait tel livre pour transcrire en braille. Charge à eux ensuite d'aller demander ce fichier aux éditeurs qui vont le déposer sur cette plateforme et nous allons le récupérer. Une fois qu'on a récupéré ce fichier de l'auteur, sachant qu'on bénéficie d'un agrément ministériel qui s'appelle l'exception handicap et qui nous dispense des droits d'auteur. Donc, on dispose du fichier. Ce fichier, il va falloir le nettoyer. Il va falloir le préparer, le découper en volume parce que le braille prend énormément de place. Donc, on a des livres, je pense au livre de Thomas Piketty sur l'économie, par exemple, il fait 47 volumes de livres. C'est-à-dire, ça représente à peu près 3 mètres linéaires d'étagères, si vous voulez. Donc, il faut refaire un sommaire, il faut refaire une pagination, il faut respecter les paragraphes. tout est fait pour être au plus près du livre de l'auteur et de sa présentation. Une fois qu'on a préparé le livre, on va le passer dans un logiciel de transcription. Ce logiciel de transcription est très rapide, on va en bosser. Alors, on ne dit pas imprimer. Pourquoi ? Parce qu'imprimer, c'est de l'encre. Et nous, on fait des bosses dans du papier. Donc, on va en bosser un premier exemplaire de livre. Celui-ci va être envoyé à un de nos relecteurs, correcteurs, non-voyants, en général spécialistes en braille, qui va nous relever les erreurs et les corrections à effectuer. Une fois que ce travail est terminé, nous pouvons mettre ce livre au catalogue et il sera disponible à la vente.
Alors, il sera disponible à la vente. Il coûte environ 700 euros à fabriquer. J'imagine que vous ne le vendez pas à ce prix-là.
Non. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure un petit peu le calcul, c'est que comme le premier exemplaire, c'est celui qui va demander le plus de temps, hein, puisqu'il y a toute cette partie transcription, les autres exemplaires, on n'a plus qu'à rééditer. Donc, c'est 700 euros, puisqu'on prend le pari qu'on va le vendre en 10 exemplaires. Auparavant, on se disait, on va vendre le livre entre 60 et 70 euros, voilà, pour essayer à peu près de rentrer dans nos frais. Ce qui n'était pas toujours le cas, bien évidemment, puisque c'est rare aussi qu'on vende en 10 exemplaires un livre. Voilà pour le coup d'avant, jusqu'au 4 janvier 2023, puisque là, moi, j'en ai eu un petit peu marre que ce prix soit un frein très important à l'accès à la lecture. Et je me suis dit, et je me suis toujours dit, c'est pas normal qu'une personne non-voyante achète son livre 60 à 70 euros, alors que nous, on va le trouver à 20 euros en librairie.
Vous avez donc écrit à des parlementaires pour les sensibiliser à cette question ?
Oui, tout à fait. On a écrit à 525 personnes au total, sénateurs, sénatrices, députés, pour dire de manière bien tournée, on en a marre. On en a marre que l'accès à la culture ne soit qu'un slogan, que l'égalité des chances ne soit qu'un slogan et que la loi de 1981 de Jacques Lang sur le prix unique du livre ne soit pas respectée pour tous. Voilà.
Râler, c'est une chose. Vous arrivez quand même avec une solution, une proposition.
Ouais, moi, j'en ai plusieurs. Alors évidemment, l'État, on n'a pas d'argent. C'est vrai que le handicap est toujours relégué au fond du tiroir. Moi, j'ai une solution, oui, qui serait aussi assez citoyenne. C'est-à-dire que vous voyez au dos d'un livre normal qu'on achète en librairie ou sur un site, il y a le prix. Imaginons un livre fait 22,80 euros. C'est un exemple. Moi, je propose à l'éditeur de rajouter 10 centimes en plus sur le prix du livre et que ces 10 centimes soient collectés et redistribués à toutes les associations qui œuvrent dans l'édition adaptée. Parce qu'il n'y a pas que le braille, il y a des publics empêchés de lire avec d'autres formes de handicap, comme la dyslexie, la surdité, etc., qui eux aussi sont en manque de livres et où les coûts de production sont très élevés. Donc voilà, pour moi, ce serait une solution citoyenne de rajouter un petit effort de 10 centimes sur un livre, ce qui ne coûterait rien à l'éditeur, puisqu'il n'aurait qu'à collecter ces 10 centimes et à le redistribuer aux associations qui œuvrent dans ce domaine.
Alors Bernard Minier, je reviens vers vous. L'un des buts de l'association, on l'a entendu, c'est de faire baisser le prix de ses livres, de les mettre au même prix qu'en librairie. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Déjà, le CTEB est une des derniers organismes à transcrire des livres en braille. Il y a d'autres associations qui le font assez ponctuellement. Eux le font systématiquement et surtout l'actualité littéraire. C'est plus de 200 titres par an. C'est des romans, les miens, le prix Goncourt, mais c'est aussi des essais. C'est beaucoup de livres pour la jeunesse, en plus avec des dessins très en relief. Parce qu'en fait, le problème aussi des livres en braille pour les enfants, c'est qu'il n'y a pas d'illustration. Eux, ils ont trouvé une espèce de technique qui leur permet de proposer des illustrations en relief. Donc, c'est vraiment quelque chose de formidable. Ils sont menacés économiquement. On pourrait très bien, bientôt, ne plus avoir de livres transcrits en braille en France. Et ça serait tout simplement, pour les personnes aveugles et les malvoyants, la fin de la lecture. Et donc, face à ce constat du déclin de l'apprentissage du braille, beaucoup d'associations s'inquiètent d'un illettrisme de plus en plus important des personnes malvoyantes, ce qui les exclurait encore plus de la société. Et moi, je sais que l'an dernier, par exemple, le 4 janvier 2023, l'association a proposé à ses frais de vendre les livres en braille au prix unique, au prix du livre normal. Et résultat des courses, à la fin de l'année, ils avaient perdu 300 000 euros. Alors 300 000 euros pour eux, c'est énorme, mais pour le ministère de la Culture ou pour le ministère de l'Éducation, c'est une goutte d'eau. C'est quelque chose qu'on pourrait faire très facilement.
Un message transmis aux parlementaires, s'ils nous écoutent, à date, seulement 5 d'entre eux ont répondu à la lettre de la CTEB. J'ai été touché, je vous avoue, par le travail de cet organisme. Et en fouillant un peu, j'ai découvert la personnalité de sa fondatrice. Elle s'appelle Monique Truquet. Elle est presque nonagénaire, mais il ne faut pas lui rappeler. Je me suis permis de l'appeler au téléphone. Elle vit toujours près de Toulouse. Tendez bien l'oreille. Bonjour Monique Truquet.
Bonjour.
Je vous appelle parce que je voulais absolument parler avec vous de votre parcours inspirant qui vous a conduit à créer la CTEB il y a 35 ans. D'abord, j'aimerais bien que vous me racontiez ce qui vous a incité à vous intéresser au braille.
Ce qui m'a intéressé, c'est que j'étais professeure à la fac d'informatique et j'avais des étudiants handicapés de la vue. Et alors, c'était moi qui faisais les travaux en braille. Alors, c'était très difficile parce que je le faisais à la main. Je prenais les 6 points braille avec un buvard en mousse de nylon, un papier dur pour qu'ils puissent le lire. Et j'en avais tellement marre que je me suis dit, il faut que je crée quelque chose. Et j'ai eu beaucoup de chance parce qu'il y a des banques, il y a des personnalités qui sont intervenues, qui m'ont dit, écoutez, on va vous aider. Et c'est comme ça qu'a démarré de ses têtes, voilà.
Avant cela, vous étiez ingénieur de recherche à l'université Paul Sabatier à Toulouse et vous avez conçu un logiciel permettant la transcription du français en braille, intégrale et abrégée. C'était en 1966.
Oui, oui. Et bien, c'est ce qui m'a permis de procurer des documents en braille aux non-voyants. Voilà.
En 1966, vous n'étiez pas en retard?
Non, mais j'étais passionnée. Hein. Ça me passionnait. Et puis, j'avais connu des non-voyants. Bon, c'était des amis. Et j'ai vu les difficultés qu'ils avaient et tout. Je me suis dit, il faut faire quelque chose, voilà.
Une femme ingénieure en 1966, c'était pas si fréquent. À cette époque, hein, moins de 5% des femmes étaient ingénieures. On était loin de la parité.
Oui. Mais c'était très difficile. Hein. J'ai eu beaucoup de... Il m'a fallu lutter. Hein. Mais je vous dirais que le directeur de l'université à ce moment-là écoutait toutes les personnes qui faisaient de la recherche. Et ça l'a passionné. C'est grâce à lui que j'ai pu continuer mes recherches, voilà.
Vous avez créé le CTEB en 1989. L'idée, c'était de permettre aux personnes malvoyantes d'accéder à la lecture, à la culture.
L'urgence, c'était les relevés bancaires, parce que beaucoup d'aveugles étaient venus me voir pour me dire « On a besoin de nos voisins pour lire nos relevés bancaires, et c'est très embêtant, parce qu'ils voient tout ce qu'on achète et tout. Et si vous pouviez faire quelque chose pour qu'on ait plus de problèmes. » C'est comme ça que j'ai commencé à faire les relevés bancaires. Et puis après, j'ai vu qu'il y avait des demandes pour des ouvrages en braille, etc., etc. Et puis j'ai eu beaucoup de chance parce que les personnes que j'ai embauchées au CETEP étaient très compétentes. Et ça m'a permis de démarrer impeccable.
C'est un beau cadeau pour une personne déficiente visuelle d'accéder à la lecture.
Ah oui, ça, ils me le disent. Hein. Vous voyez, j'ai eu une rencontre avec des non-voyants. Il y a une dame qui a dit, je savais qu'il y avait une rencontre de non-voyants pour vous rencontrer. Je suis venue de Paris pour vous remercier parce que, avant vous, j'avais besoin de mes voisins pour lire tout ce que je recevais de papier. Je n'avais aucun livre à lire ni rien. Et maintenant, j'ai des revues, j'ai de tout. C'est merci. Voilà. Alors ça m'avait vraiment touchée.
Quel est le livre publié en braille par le CTEB que vous aimez le plus, celui qui vous touche le plus?
Oh, je ne me le rappelle pas. C'était un des premiers, je ne me rappelle pas. J'en ai tellement sorti, je ne me rappelle pas. Je vous dirais que tous les livres que j'ai pu faire me bouleversaient parce que c'était une demande faite par les non-voyants. Donc c'était une nécessité et de pouvoir le faire, ça me rendait vraiment heureuse. Voilà.
Est-ce que vous avez un regret aujourd'hui?
Non, parce que j'ai eu beaucoup de chance. Le maire de Toulouse m'a bien aidée puisqu'il m'a donné immédiatement un grand garage où j'ai pu installer le CETEB tout à fait au début, et ce qui m'a permis donc de démarrer et de ne pas avoir à payer de loyer ni rien. Vraiment, les maires de Toulouse m'ont vraiment bien aidé.
Fabriquer un livre en braille, ça coûte cher. Est-ce que vous comprenez qu'une personne malvoyante ait à débourser plusieurs dizaines d'euros pour accéder à un livre de Bernard Minier, par exemple?
Parce que ça demande du temps. Je vous dirais que, par exemple, avant de mettre le livre à la transcription, il faut mettre des codes. Par exemple, lorsqu'il y a un nom propre, il faut signaler au logiciel qu'il ne faut pas l'abréger, si c'est de l'abréger. Il y a beaucoup d'informations à donner. Lorsque c'est un italique, il faut le signaler, etc., etc. Donc, on a besoin du personnel pour préparer l'ouvrage avant d'être transcrit en braille. Donc, il faut le payer. Voilà. Et c'est pour cela que ça coûte cher. Et d'avoir eu cette obligation de perfection a fait que nous avons pu créer un centre qui est reconnu et les non-voyants aiment beaucoup lire nos ouvrages. Voilà.
Pour terminer ce podcast avec vous, Bernard Minier, qu'est-ce que vous pensez du parcours de la vie de Monique Truquet? Qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire?
Ah ben qu'elle a choisi une cause absolument magnifique, son parcours est incroyable, il est romanesque, on pourrait presque faire un roman avec cette vie-là, et puis c'est une grande dame d'une humilité absolue en plus. Moi je peux avoir que de l'admiration pour les personnes comme ça, moi quand je en croise des gens de cette stature, j'ai juste l'impression d'être un scribe, un petit auteur, et on peut que s'incliner devant. Il faut des gens comme ça dans un pays, il faut des gens qui bougent les choses, qui ont une volonté de faire. Il faut continuer, et je pense que son combat est noble et il faut continuer à le soutenir.
Merci Bernard Minier, merci Adeline Courson, et un grand merci surtout à Monique Truquet pour sa gentillesse et son écoute. J'en profite aussi pour saluer l'équipe qui anime chaque année le Podcaston. Je vous invite à vous rendre sur le site podcaston.fr, mais aussi sur le site cteb.fr. En tant qu'association reconnue d'intérêt général, elle est éligible aux dons. Cet épisode de La Story a été réalisé par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnèche.